Si Christ vit en moi, alors ça devrait être possible d'avoir ses paroles dans notre bouche. C'est un très bon chant, très à propos. J'ai une lame dans la bouche, une lame à deux tranchants, enfin il y en a un qui n'est pas bon. Parce que je suis créée à l'image de Dieu, mes paroles ont un grand pouvoir. Dieu a tout pouvoir. Il crée, il engendre la vie, il touche l'âme, l'esprit. Dieu a tout pouvoir, mais pas moi. Mais quand même, les paroles que je prononce peuvent donner la vie ou la mort. On a vu que toute la parole est écrite, toute la parole de Dieu, toute l'écriture est utile pour nous enseigner. Pour nous enseigner. Ça comprend les récits parfois sordides de l'Ancien Testament. C'est important de connaître l'histoire du peuple d'Israël parce que ça nous aide à mieux saisir beaucoup d'enseignements du Nouveau Testament. Paul a écrit aux chrétiens de l'Église de Corinthe que les aventures d'Israël dans le désert ont encore leur utilité aujourd'hui. Elles ont été consignées pour notre bénéfice. On lit dans 1 Corinthiens 10, les versets 6 et 11. Or, ces faits sont arrivés aux Israélites pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux en ont eu. Là, il fait allusion au veau d'or, à l'incrédulité, à toutes sortes de choses. Tous ces faits sont arrivés aux Israélites pour servir d'exemple et ils ont été écrits pour notre instruction. Alors, c'est avec cette pensée en tête que j'aimerais faire un retour en arrière, un retour dans le temps. Je veux qu'on voit ensemble l'entrée d'Israël en Canaan, prise 1, prise 2. Mais avant de voir ça, il faut qu'on fasse un retour en arrière, parce que c'est le retour en arrière qui va expliquer la portée des événements. Alors, il faut comprendre les faits qui entourent ça. Alors, si vous connaissez bien l'histoire, ça va être une courte révision. Si vous ne la connaissez pas, ça va être un très rapide survol. Je vous encourage d'ailleurs à lire le récit par vous-même. Et tant qu'à ça, lisez tout le lisez tout l'Ancien Testament aussi. C'est un livre qu'on aborde parfois... qu'on n'aime pas aborder parce qu'on trouve ça compliqué et tout ça. Mais on n'est pas obligé de tout comprendre du premier coup. On peut prendre une version de la Bible qui est plus accessible. Ça peut être une Bible pour enfants. Il y a des personnes qui apprivoisent l'Ancien Testament en lisant dans des Bibles pour enfants. Alors, considérez-le. Alors, Dieu a créé le monde. La chute est arrivée, il y a eu le déluge. Bon, à un moment donné, Dieu choisit un homme, Abraham. Il dit à Abraham, « De toi, je vais sortir un peuple. » Donc, Dieu choisit un homme de qui un peuple va sortir, le peuple juif. « De ce peuple-là sera issu le Messie, qui va être une bénédiction pour tous les peuples. » Entre autres choses, Dieu promet à Abraham et à sa lignée un pays. La descendance d'Abraham, au nombre de 70 environ, à cause d'une famine, s'en va en Égypte. Abraham y est mort, mais sa descendance s'en va en Égypte. Et le peuple hébreu passe à peu près 450 ans, dont une là-bas en Égypte, dont une bonne partie en esclavage. À un moment donné, Dieu dit « Ok, c'est le temps, on sort ». Et il fait sortir le peuple de l'Égypte par toutes sortes de miracles. Toutes sortes d'exploits. Alors, il y a les 10 plaies, les 10 fléaux que Dieu envoie sur l'Égypte, dont la mort des premiers-nés, qui est une image du sacrifice de Jésus, qui est une préfiguration, si on peut dire, du sacrifice de Jésus. Donc, on a un peuple d'esclaves qui s'en va au désert. On compte au bas mot 1 million de personnes. OK? Donc, on a 1 million de personnes qui s'en vont au désert. C'est des esclaves qui viennent tout juste d'être affranchis d'une façon exceptionnelle. C'est un peuple désordonné, sans vraiment d'organisation parce qu'ils étaient tenus en esclavage. Dieu fait traverser la mer Rouge au peuple. Alors, il le dirige, il ouvre la mer devant lui. Il traverse à pied sec. Dieu dirige son peuple sous la forme d'un nuage de fumée pendant le jour et d'une colonne de feu pendant la nuit. Le peuple, et ça c'est important, le peuple voit une manifestation visible de son libérateur. Le peuple entend, entend la voix de Dieu. Pas capable de le prendre, mais il l'entend pareil, il entend des choses. Puis il dit, Moïse, occupe-toi de Dieu. Tu vas être notre intermédiaire parce que c'est trop pour nous. Mais le peuple voit et entend. Dieu veut constituer son peuple, lui donner une structure, lui donner des lois, l'instruire sur la façon de lui rendre un culte, et il le fait par l'intermédiaire de Moïse. Donc le peuple suit, le peuple se déplace dans le désert en suivant la direction de son libérateur. Israël passe un peu plus qu'un an dans le désert. Il mange le pain du ciel que Dieu lui envoie tous les jours. Donc la manne que Dieu envoie à tous les jours. Juste une parenthèse. Si vous croyez que c'est trop difficile à croire tous ces miracles, parce qu'il y en a qui disent, ben, je ne peux pas, c'est juste une image, vous ne pouvez pas aborder la Bible en disant, ça a de l'allure, puis ça n'a pas d'allure. Ou bien tout ça a de l'allure, ou bien rien. OK? Alors, on prend pour acquis, je fais appel à votre foi, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas, je sais que la majeure partie vont dire oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais si dans votre cœur vous dites ça n'a pas de sens, continuez quand même par la foi. Parce que ça ne donne rien. Si vous ne croyez pas que la parole de Dieu est vraie, en fait, vous n'avez pas le droit de déterminer vous, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, parce qu'alors là, ça devient relatif. La parole de Dieu n'est pas relative. Donc, le peuple, donc Dieu envoie tous les jours la manne. Le pain qui descend du ciel. Le peuple arrive enfin à destination. Le pays de Canaan est là devant eux. Il y a un hic. Si Dieu donne à son peuple du pain chaque jour, que les Juifs n'ont qu'à se pencher pour le ramasser, c'est pas pareil pour le pays. Il faut le conquérir. C'est un territoire habité. C'est un territoire habité. 7 nations occupent ce pays. Et depuis longtemps, ces 7 nations-là sont sous le jugement de Dieu. Toutes les guerres, puis tout ça qu'on ne comprend pas dans l'Ancien Testament, les nations sont sous le jugement de Dieu pour toutes sortes de raisons. Donc, le temps est venu, d'une part, pour Dieu d'exercer son jugement sur les nations, et d'autre part, d'aider le peuple à entrer dans le pays promis. Alors là, à la demande du peuple, Dieu envoie 12 hommes explorer le pays pour en faire un compte-rendu. Et Dieu, les Israélites choisissent eux-mêmes les personnes, les espions. Et on lit dans Nombre 13, là je vais vous faire, si vous avez vos Bibles puis que ça vous tente, là je vais vous faire une lecture commentée de Nombre 13 et 14. Essayez pas de suivre tous les versets, parce que je vais en sauter, je vais en lire, puis tout ça, mais c'est quand même une lecture commentée de Nombre 13 et 14. Alors, on voit dans Nombre 13, au verset 2 et 3, que ce sont des leaders qui sont choisis pour être les espions. Chacune des 12 tribus se choisit un leader. Alors là, ce qu'on voit, Moïse les envoyait explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez par le sud, montez sur la montagne, examinez le pays. Vous examinerez comment il est, quel est le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est nombreux ou non. Vous examinerez quel genre de pays, s'il est bon ou mauvais, le genre de ville, est-ce que c'est des villes ouvertes ou fortifiées, des villes avec des murs ou pas de murs. Vous examinerez comment est le terrain, est-ce qu'il est fertile ou pauvre, est-ce qu'il y a des arbres ou non. Armez-vous de courage et prenez des fruits du pays. Il avait juste mangé de la manne. Ça faisait un bout de temps. Bon, prenez des fruits du pays. Ah, ça devait être spécial. C'était l'époque des premiers raisins. Alors, les hommes sont montés, ils ont exploré le pays. Et là, ils ont constaté les villes. Ils ont vu que les fruits étaient immenses. Ils en ont apporté. Et là, ils furent de retour de l'exploration du pays, je suis rendue au verset 25, au bout de 40 jours. Alors là, à leur arrivée, ils se présentent auprès de Moïse, d'Aaron et de toute l'assemblée des Israélites à Kadès. On a combien de personnes? Environ 1 million. De ce million-là, okay, on fait des chiffrons, mais de ce million-là, il y a 600 000 hommes de 20 ans et plus aptes au service militaire qui ont été dénombrés. Nombre, un dénombrement. On les a dénombrés, il y a 600 000 hommes aptes au service de garde. Donc, de ce million-là, il y en a 600 000. Même si on disait que les femmes, ils ne sont pas venues à l'Assemblée, ben, ça fait quand même 600 000 personnes. OK? Mais on dit toute l'Assemblée. Alors, il y a de fortes chances que les vieillards étaient là, les adolescents étaient là aussi, et les femmes. Alors, voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est vraiment un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des descendants d'Anak. Les Amalécites habitent au sud, les Hittites, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne, les Cananéens habitent au bord de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Le rapport dit, hey, c'est vraiment un bon pays, mais là, on a 10 hommes devant 1 million de personnes. Okay? Essayez d'imaginer, moi, c'est ça, j'aime le théâtre, je vois ça dans ma tête. Là. Mais, écoute, il y a des géants là-dedans. C'était des hommes de haute taille. Caleb fit taire le peuple qui murmurait. Selon certains commentaires que j'ai vus, ça pouvait être juste les leaders qui murmuraient. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il disait toute l'Assemblée. On peut penser qu'il y avait plus que juste les leaders. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui l'y avaient accompagné dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils dénigrèrent devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Une fixation, hein? Nous avons vu les géants d'Anak, les descendants d'Anak qui sont issus des géants. À nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles. Caleb dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Les espions disent, on ne peut pas monter parce qu'ils sont plus forts que nous. Et ils dénigrèrent le pays. Le mot dénigrer ici, c'est un mot qui veut dire diffamation. Ils étaient en train de diffamer le pays exploré. C'est un pays qui dévore ses habitants. Je parlais tantôt de paroles de vie, de paroles de mort. Et c'est ça, pendant que je vous raconte ça, non? Pensez aux paroles de vie puis aux paroles de mort. Ce que les espions ont dit, c'est vrai. C'est vrai que le peuple était puissant. C'est vrai qu'il y avait des géants. C'est vrai qu'il y avait des villes fortifiées. C'est vrai qu'il y avait l'air de sauterelles à côté. Puis c'est vrai qu'eux, c'était juste des sauterelles. Mais les conclusions tirées étaient fausses. Les conclusions tirées, on ne peut pas y aller. On va toutes mourir. C'est des paroles de mort que le peuple a prononcées. Est-ce que c'était tous des géants? Est-ce que parmi les sept nations, c'était tous des géants? Non. Un pays qui dévore ses habitants? Pourtant, vous avez dit que c'est un pays où coule le lait et le miel. Et où le problème? Des commentateurs disent, ben, il y avait beaucoup d'ennemis autour, fait qu'il y avait tout le temps de la guerre. Ou bien, il y avait plusieurs peuples qui s'entretuaient tout le temps. Il y avait des guerres internes. OK, ça se peut, un pays qui dévore ses habitants dans ce sens-là. Mais Israël oubliait certaines choses. C'est comme si le peuple, les espions, apportent leur version des faits qui ne correspond pas à la réalité spirituelle qu'ils vivaient. Canaan était un peuple dispersé avec des troubles internes. Israël était une armée de 600 000 hommes, une armée unie, avec le même intérêt. Le même but. Eux autres, ils se tuaient entre eux. Ça, c'est une réalité. Le peuple, les espions, 10 hommes ont eu sur 600 000 hommes, minimum, un impact extraordinaire. Des paroles de défaite, de découragement. Et qu'est-ce qu'on voit ensuite? Toutes L'assemblée se souleva et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Êtes-vous allé déjà sur le bord d'un lac? Le soir, l'air est léger, hein? Le moindre son, là. Quand les enfants jouent dehors le soir et qu'il fait noir, les gens sont couchés. On dirait que quand il fait noir, le bruit porte plus. Là, on est en plein désert, puis un peuple pleure toute la nuit. Des lamentations. Puis probablement beaucoup d'écho. Tous les Israélites murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit. Je ne mettrai pas trop d'emphase, mais si seulement nous étions morts en Égypte ou dans ce désert, pourquoi l'Éternel nous a-t-il fait aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Ça, là, c'est un début d'émeute. C'est vrai. C'est un début d'émeute. Ils pleurent toute la nuit. Ils se crinquent au bout. Puis là, pourquoi? On va tous mourir. Hey, c'est mieux de retourner en Égypte. Ils avaient oublié. Hey, allume. Vous mouriez. Pharaon faisait tuer vos bébés. Vous auriez fini par être exterminés en Égypte si Dieu vous en avait pas fait sortir. Moïse et Aaron tombèrent le visage contre terre devant toute l'assemblée réunie des Israélites. Josué et Caleb déchirent leurs vêtements pour montrer leur grande affliction et disent à toute l'assemblée, « Le pays, ils sont deux devant 10 espions négatifs et 600 000 hommes qui veulent un autre chef. Okay? » Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous y conduira et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne vous révoltez pas contre l'Éternel. N'ayez pas peur des habitants de ce pays, car nous ne ferons d'eux qu'une bouchée. Ils n'ont plus de protection et l'Éternel est avec nous. N'ayez pas peur d'eux. Oh, wow! Si tout le monde avait entendu. L'assemblée parlait de les lapider. Peut-être qu'il y en avait déjà qui avaient ramassé des roches pour les lancer à Moïse, à Aaron. Et là, la gloire de l'Éternel est apparue. Ils ont eu beau essayer de convaincre l'assemblée, et le mal était fait. Le peuple n'écoute plus, parce que 10 hommes ont semé la mort dans le cœur d'un peuple entier. Et qu'est-ce que Dieu pense de ça? Il dit, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi? » C'est une question de foi. Une question de foi. Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les signes que j'ai accomplis au milieu de lui? Ils avaient assisté au fléau en Égypte. Ils avaient vu la mer qui s'est ouverte devant eux. Ils ont vu l'armée de Pharaon engloutie. Ils ont vu la colonne de feu, la colonne de nuée. Ils ont vu la manne à tous les jours. Malgré tous les signes que j'ai accomplis au milieu de lui, ils ne croient pas. Et là, Dieu veut détruire le peuple. Et Moïse intercède. Moïse intercède en invoquant les qualités même de Dieu. C'est ta réputation, Seigneur, qui est en jeu. Tu ne peux pas détruire ce peuple-là. Qu'est-ce que les autres peuples vont dire? Quelles sont les conséquences pour 600 000 hommes? Quelles sont les conséquences? Dieu dit, « Je pardonne comme tu l'as demandé, mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Ces hommes ont vu ma gloire et les signes que j'ai accomplis en Égypte et dans le désert. Ils m'ont provoqué déjà 10 fois et ne m'ont pas écouté. Aucun d'eux ne verra le pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Aucun de ceux qui m'ont méprisé le verra. Quant à mon serviteur Caleb, ça incluait aussi Josué, parce qu'il a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et sa descendance le possédera. Maintenant, tournez-vous, partez pour le désert, dans la direction de la mer des roseaux. Tournez le dos au pays. On change le trajet. conséquence, c'est que... Ah oui, il dit plus loin. Dieu dit, jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer? Pensez les paroles, là, on parle des mots de nos mots, là, OK? Jusqu'à quand je vais la laisser murmurer? J'ai entendu les plaintes des Israélites qui murmuraient contre moi. Annonce-leur, aussi vrai que je suis vivant, déclare l'Éternel, je vous ferai exactement ce que je vous ai entendu dire. Vos cadavres tomberont dans le désert. Vous tous, dont on a fait le dénombrement en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi, vous n'entrerez pas dans le pays. Aucun de vous n'y entrera, excepté Caleb et Josué. Quant à vos petits-enfants, eux dont vous aviez dit qu'ils deviendraient une proie, je les y ferai entrer. Ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres, à vous, tomberont dans le désert, et vos enfants seront nomades pendant 40 ans. Ils supporteront les conséquences de vos infidélités jusqu'à ce que tous vos cadavres soient tombés dans le désert. Vous avez mis 40 jours à explorer le pays. Vous supporterez donc les conséquences de vos fautes pendant 40 ans. Une année pour chaque jour. Ainsi, vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Conséquence, un séjour prolongé de 40 ans. En fait, c'est comme 38. On voit plus loin, c'est 38 ans, mais en tout et partout, là, depuis leur sortie d'Égypte, c'est un total de 40 ans. Tous les hommes de guerre y meurent, sauf Josué et Caleb, qui ont donné un rapport favorable. J'ai fait un petit calcul. 600 000 hommes qui meurent pendant 40 ans, ça donne 15 000 morts par année. 15 000 morts par année, ça fait 41 morts par jour. En moyenne. C'est deux morts à l'heure. Deux morts à l'heure. Des fois, il y en avait plus, peut-être, des fois, il y en avait moins. Les gens mouraient, tout simplement. Ce n'est pas une roche, nécessairement, qui leur tombait sur la tête. Ce n'est peut-être pas un serpent qui mordait. C'est arrivé, des serpents brûlants. C'est arrivé que Dieu envoyait des fléaux. Mais ceux-là, les 600 000 qui sont morts dans le désert, ils mouraient. Comme ça. Peut-être qu'il y en a qui arrêtaient juste de respirer, qui se réveillaient pas le matin. Et je ne sais pas si vous savez, mais 41 morts par jour, c'est une moyenne. Ça fait beaucoup de monde à enterrer. Il n'y a peut-être plus de place, je ne sais pas. On peut juste s'imaginer. Mais les cadavres jonchaient littéralement le désert. Les femmes, les vieillards, tout le monde était en état d'impureté continuelle parce qu'il fallait les mettre à quelque part. Il fallait y toucher aux cadavres. C'était des funérailles continuelles, un deuil incessant, un deuil de 40 ans à cause d'un rapport négatif, à cause des paroles de mort qui ont été prononcées par les espions. Puis là, je peux juste imaginer les plaintes pendant ce long séjour. « Maman, pourquoi on tourne en rond? Quand est-ce qu'on arrive? Pourquoi papa est mort? C'est à quand mon tour? » J'imagine l'épouse. « C'est à cause de toi, chérie. Plains-toi surtout pas! » J'imagine les vieillards qui étaient si près du but, qui n'était pas dans le dénombrement, qui aurait aimé y entrer dans ce pays-là. Puis qu'à cause d'une gang de tweets, qu'on est pogné pour rester dans le désert pendant 40 ans. J'imagine l'impatience des enfants. J'imagine Moïse, Josué, Caleb si près du but. Moi, j'aurais eu de la misère à leur pardonner. J'aurais eu beaucoup, beaucoup de misère à leur pardonner. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, à vous, de prononcer des paroles de mort? Des paroles qui découragent, qui tuent en dedans. Des paroles qu'on lance à la légère. Des paroles qui montrent qu'on ne fait pas confiance à Dieu en bout de ligne. Est-ce que ça vous est arrivé? Ou bien peut-être que vous en avez entendu. C'est à vous qu'on a dit des paroles de mort. C'est à vous. Nos paroles ont une portée infiniment plus grande que ce qu'on pense. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Une abondance d'incrédulité, de non-foi va donner des paroles entachées d'incrédulité. Et je vais faire à Dieu une mauvaise réputation, puis je vais me croire, puis je vais en parler, je vais contaminer les autres, je vais percer le cœur des autres. Parole de mort. Sachez que Dieu pardonne quand on lui confesse nos paroles de mort. Il n'y a aucun péché qui échappe au sang de Jésus-Christ. Dieu peut vous pardonner vos paroles de mort, mais il n'enlèvera pas les conséquences. Et il est là le travail. Sachez toutefois que Dieu pardonne, que son amour ne change pas. Soyez toutefois consciente de l'impact de vos propos. Là, 38 ans s'écoulent. L'armée de 600 000 hommes périt au désert. Puis, quand on arrive au nouveau recensement, il y a encore 600 000 hommes. Ça veut dire qu'il y avait une bonne gang qui a grandi, qui maintenant, on en a 600 000 nouveaux, plein de nouvelles dispositions. On revient à la case départ et Moïse va réunir l'Assemblée pour faire un petit rappel de ce qui s'était passé 38 ans plus tôt. Et là, Moïse raconte un peu, bon, ce qui s'est passé dans le désert, puis il relate les faits, il raconte. Fait qu'on a comme une autre version de cet épisode-là. Je vous ai dit, vous êtes arrivés à la région montagneuse que l'Éternel vous donne. Monte, prends-en possession, comme l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres. N'aie pas peur, ne te laisse pas effrayer. Vous vous êtes tous approchés de moi et vous avez dit, envoyons des hommes devant nous pour faire un rapport sur le chemin par lequel nous y monterons et sur les villes où nous arriverons. C'était peut-être une marque d'incrédulité, ça? Je ne sais pas. Cet avis m'a paru bon, dit Moïse, et j'ai pris 12 hommes parmi vous, un par tribu. Le fait que c'était des leaders ajoute encore au poids de leurs paroles. Ils sont partis, ont traversé la montagne, ils ont pris dans leurs mains des produits du pays, nous les ont présentés, ils ont fait un rapport et ont dit, c'est un bon pays que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. Mais, c'est Moïse qui parle, vous n'avez pas voulu y monter. Vous vous êtes révoltés contre l'Éternel, votre Dieu. Vous avez murmuré dans vos tentes et vous avez dit, c'est parce que l'Éternel nous déteste qui nous a fait sortir d'Égypte. Il voulait nous livrer entre les mains des Amoréens et nous détruire. Où pourrions-nous monter? Nos frères nous ont fait perdre courage. Nos frères nous ont fait perdre courage en disant, c'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous, encore les géants. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous y avons même vu des descendants d'Anak. Nos frères nous ont fait perdre courage. Et je vous ai dit, ne tremblez pas et n'ayez pas peur d'eux. L'Éternel, votre Dieu qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous. Malgré cela, okay, non. Tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils. Tu as vu l'Éternel t'a porté comme un homme porte son fils pendant tout le parcours que vous avez effectué jusqu'à votre arrivée ici. Malgré cela, vous n'avez pas eu confiance en l'Éternel, votre Dieu, qui marchait devant vous sur la route, la nuit dans un feu, le jour dans une nuée, l'Éternel a entendu vos paroles. L'Éternel a entendu les murmures, a entendu les protestations, a entendu l'apitoiement. Et les Israélites ont prêté de mauvaises intentions à Dieu. C'est parce qu'ils ne nous aiment pas. Ils nous ont tendu un piège. Ils voulaient que ce soit les autres qui nous tuent. Ils ont prêté de mauvaises intentions et ils les ont exprimées. Ils les ont étalées, ils les ont nourries, ils les ont entretenues, ils les ont bercées. Ils ont cru à leur propre fabulation. 10 espions ont fait perdre courage à 600 000 hommes. Avoir de telles pensées, c'est une chose. Avoir peur, douter, c'est une chose. Mais les propager, c'en est une autre. Quand on propage nos peurs et nos doutes, on contamine, on mine le courage de l'autre, on mine sa foi. Et là, Moïse, est sur le point de monter. Lui, Moïse, n'a pas eu le droit d'entrer dans le pays promis à cause d'une faute qu'il avait commise. Et là, Moïse fait toutes ses recommandations au peuple. Alors ça, c'est tout le Deutéronome. Il fait un rappel des bénédictions et tout ça. Et il dit, prenez à cœur toutes les... Puis là, il s'en va mourir, là. Puis il passe le flambeau à Josué, OK? Il passe le flambeau à Josué, puis il voit à quel genre de peuple Josué va avoir affaire. Il dit, je vous en supplie, prenez à cœur toutes les paroles que je vous supplie aujourd'hui de recommander à vos enfants, afin qu'ils respectent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. En effet, ce n'est pas une parole sans importance pour vous, c'est votre vie. C'est par cette parole que vous pourrez vivre longtemps dans le pays. Cette parole-là, c'est comme l'insuline du diabétique. S'il n'en prend pas, il meurt. La parole de Dieu, c'est votre insuline spirituelle. Si vous la mettez pas en pratique, si vous ne la prenez pas en considération, si vous n'y croyez pas, vous allez mourir. Puis, dans leur cas, c'était littéralement. Mais c'est la même chose pour nous. Parole de vie ou parole de mort. C'est écrit dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Ça veut dire quoi? C'est que sa vie, même physique, ne dépend pas seulement du pain. Sa vie physique dépend aussi de la parole de Dieu. Et là, Josué se retrouve seul à la tête du peuple. Qui va l'encourager? Qui va lui donner des paroles de vie? Qui? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le peuple qui va l'aider? En fait, les paroles de vie viennent de Dieu. Nous devons apprendre à copier Dieu. Dieu dit à Josué, « Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. » Josué peut croire ou ne pas croire. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Josué, tu me crois ou tu ne me crois pas? Oui, je te crois. Il n'y a aucun homme qui aurait pu dire ça à Josué. Josué ne l'aurait pas cru. Il avait passé 40 ans dans le désert avec cette gang-là. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement fortifie-toi et aie bon courage en te conformant à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à gauche ni à droite, afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi, les 5 premiers livres, ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cette ordonnée? Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté. L'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. Josué, excusez l'expression, il y avait la chienne. Il tremblait dans ses sandales. Il fallait qu'il conquière un pays habité par 7 nations puis qu'il dirige 600 000 hommes. Chialeux. Ils ont chialé tout le temps dans le désert, pratiquement tout le temps. Josué se sent seul, il a peur. Il doit mener 600 000 hommes pour conquérir un vaste territoire. Dieu le sait qu'il a peur. Il ne veut pas nier. Il dit, n'aie pas peur, je suis là. Ne crains pas. Dieu rassure son serviteur et ce serviteur se laisse rassurer. Des fois, on entend des paroles de vie, puis on ne se laisse pas ranimer par les paroles de vie. Le succès de Josué dépendait de l'obéissance à la parole audible de Dieu, mais aussi à sa parole écrite. Josué va-t-il croire aux paroles de Dieu à son sujet? Tout le succès de son entreprise dépend de sa confiance ou de sa défiance. Mais Dieu, tout au long de Josué, ce qu'on voit, c'est l'Éternel qui agit. Dieu a encouragé son peuple, Josué. Dieu a dit à Josué des paroles vraies, des exhortations constructives. Ce sont des paroles de vie. Pensez à vous, paroles de vie de votre part. Les paroles de vie que Josué a entendues sont celles de Dieu. Pour moi qui ai l'Esprit de Dieu, mes paroles devraient trouver leur source, leur fondement, leur appui dans la parole de Dieu. Mais si je ne la connais pas, comment pourrais-je prononcer la vie? Les paroles de vie, on voit à la fin du livre de Josué, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la communauté d'Israël, aucune ne resta sans effet. La parole de Dieu est vivante et efficace. Aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Josué 23, reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune des bonnes paroles dites à votre sujet par l'Éternel n'est restée sans effet. Toutes se sont réalisées pour vous, aucune n'est restée sans effet. Au verset 15, Dieu a réalisé toutes ses bonnes paroles. Dieu a réalisé toutes ses bonnes paroles parce que Dieu est fidèle. Et parce qu'il est juste, c'est écrit que Dieu va aussi accomplir ses menaces. OK? Parce que Dieu est juste. Alors, pour moi, les paroles de vie. Le verset dans vos notes, c'est Éphésiens 4, 29-31. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqué d'une empreinte ou scellé pour le jour de la libération. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles. Alors là, on a le contraste ici. Aucune parole malsaine, juste des bonnes paroles. Le mot malsaine pourrait être traduit par pourri. C'est ma note de traduction. Qu'aucune parole pourrie ne sorte de votre bouche. La pourriture, ça pue. Donc, qu'aucune parole puante, en état de putréfaction, ne sorte de votre bouche, mais juste des bonnes paroles, des paroles saines, qui, en fonction des besoins, question de discernement ici, servent à l'édification, servent à bâtir, à construire un édifice, ça se construit, édifier, c'est des mots de la même famille, édifier veut dire construire. Des paroles qui construisent et qui transmettent une grâce, qui font du bien, qui exercent sur l'autre une influence qui vient de Dieu. C'est le genre de paroles qui devraient sortir de notre bouche. Puis là, tout d'un coup, on parle du Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Ben, c'est peut-être que j'attriste le Saint-Esprit par mes paroles pourries. Parce que tout de suite après, il revient aux paroles. Saint-Esprit, il mentionnait juste entre deux phrases, comme ça, en sandwich. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, calomnie, toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Paul est en train de dire, dites oui aux paroles qui édifient, qui bâtissent, qui élèvent, aux paroles qui font du bien, mais dites non à l'amertume, la fureur, la colère, parce que amertume, fureur, colère s'extériorisent par nos mots. Aux éclats de voix, aux calomnies, toute forme de méchanceté, et surtout en parole, à ce qu'on peut voir. Quand je parle aux autres, que ce soit mes enfants, mon mari, mes collègues, mon pasteur, mes frères, mes sœurs, la caissière, la secrétaire du médecin, quand je leur parle, est-ce que je leur fais du bien par mes paroles? Est-ce que je leur donne des mots réfléchis, enrobés de bienveillance, qui, d'une manière ou d'une autre, peuvent répondre à un besoin? Proverbe 31, 26 parle de la femme vaillante. Elle ouvre la bouche avec sagesse et un enseignement plein de bonté est sur sa langue. Elle ouvre la bouche avec discernement et bon sens et un enseignement bienveillant est sur sa langue. Des fois, ce qu'on dit, c'est bon, mais il manque. Des fois, ce qu'on dit est plein de bon sens, de sagesse, mais ça manque de bonté. Alors, c'est important, quand on dit quelque chose, d'ajouter une bonne dose de bonté à nos propos. Paul nous dit de dire la vérité dans l'amour. Dire la vérité sans amour, c'est de la brutalité. Alors, il faut trouver la façon, une bonne façon, un équilibre dans la façon d'exprimer nos pensées. Comment je peux faire pour que, quand j'ouvre la bouche, avec mes parents, mes amis, mes enfants, mon mari, mes collègues, mes frères, mes sœurs, quand j'ouvre la bouche, que ce soit des paroles de sagesse qui en sortent? Ça doit venir du dedans. Ça doit venir de très, très profond en dedans. Beaucoup de gens ont besoin d'entendre des paroles pleines de sagesse et de bonté. Beaucoup, beaucoup. Soyez à l'affût de ceux qui en ont besoin. Matthieu 12, 34, 37 dit « La bouche exprime ce dont le cœur est plein. » D'autres versions, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, mais c'est que la bouche exprime ce dont le cœur est plein. À partir du surplus, c'est comme si le cœur déborde. Là. Ceux qui ont des reflux gastriques, vous savez ce que c'est? Imaginez un reflux du cœur. OK? C'est l'idée. La bouche exprime ce dont le cœur est plein. L'homme bon, la femme bonne, tire de bonnes choses de son bon trésor, et la femme mauvaise tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, le jour du jugement, les femmes rendront compte de toute parole inutile qu'elles auront proférée. En effet, d'après tes paroles, tu seras déclaré juste, et d'après tes paroles, tu seras condamné. Je ne veux pas me mettre à discuter du salut là-dedans, on ne croit pas à la perte du salut. L'idée, c'est qu'on a à rendre compte de ce qu'on va dire. Le bon trésor, dans ma note ici de traduction, c'est le bon trésor du cœur. Donc, du bon trésor du cœur, la femme va chercher des bonnes choses. Puis du mauvais trésor du cœur, la femme va chercher des mauvaises choses. Autrement dit, bon trésor égale cœur rempli de bonnes choses égale bonne parole, j'en rendrai compte. C'est correct? Mauvais trésor égale cœur plein de pourriture égale parole pourrie égale j'en rendrai compte. C'est le fun de rendre compte pour des bonnes choses. Puis il faut voir ça aussi dans la Bible. Dieu n'est pas toujours en train de nous condamner pour nos mauvaises choses. Il récompense les bonnes. Ce qu'il y a dans votre cœur détermine ce qui va sortir de votre bouche. Proverbe 10, le verset 11a nous dit « La bouche du juste est une source de vie. » C'est une source d'où jaillit la vie, et la vie jaillit de ce qui est en dedans. Alors, ce que je dis va trouver sa place dans mon cœur. Ce qu'il y a dans votre cœur en ce moment va déterminer la teneur de vos paroles. Les mots de nos mots, ça commence ici. C'est pas juste d'essayer de se taire, c'est de regarder ce qu'il y a en dedans. Prononcer la vie. J'aimais beaucoup ce titre. C'est une amie qui m'a envoyé m'a suggéré un chapitre de livre, et c'était ce titre-là, « Prononcer la vie », je trouvais ça tellement évocateur. Prononcer la vie, avoir pour l'autre des paroles de vie et non des paroles de mort, parce que nos paroles de mort tuent. Il faut d'abord réfléchir avant de parler. Proverbe 29, 20 nous dit, « Si tu vois un homme parler sans réfléchir, on va le féminiser, OK? Si tu vois une femme parler sans réfléchir, il y a plus à attendre d'une femme stupide que d'elle. Parler sans réfléchir, c'est pire que de la stupidité. Il faut s'écouter parler aussi. Des fois, on parle tellement qu'on ne s'écoute pas parler. On ne s'en rend même pas compte qu'on raconte n'importe quoi. Des critiques. Alors là, des critiques, j'ai fait une liste de choses positives et négatives. Merci. J'ai fait une liste de choses négatives. Et vu que ce n'est pas enregistré, vous pouvez m'aider. Par quoi peut-on... Alors, cette liste dans vos notes, ce sont des paroles de mort. Et il faut les remplacer par des paroles de vie. Alors, on a nos critiques négatives qu'on peut remplacer par... Pardon? Des critiques positives, mais constructives. Des propos constructifs qui édifient, qui font du bien. Des instructions bienveillantes. Quand j'étais petite et qu'on prenait de l'aspirine parce qu'il n'y avait pas de Tylenol dans le temps, ça goûte mauvais de l'aspirine. Hein? Puis c'était un enfant qui doit avaler ça, c'est tout mauvais dans la bouche, puis ça s'égrène. Ma mère l'écrasait, puis elle mettait ça dans de la confiture. C'est ça des critiques constructives. Okay? C'est l'aspirine dans la confiture. Vous dites des choses, vous les dites comme il faut pour que ça fasse du bien. Puis c'est pas de l'hypocrisie, c'est de la sagesse. Okay? Je ne suis pas en train de dire ne dites pas, faites pas de critiques. Soyez constructifs. Des propos décourageants. Des propos décourageants devraient être remplacés par encourageants. Encourageants qui donnent du courage, qui donnent du cœur. Hey, tu ne seras jamais capable. Ah, oh, on n'y arrivera pas. Ça ne donne rien. Ça, c'est décourageant. Il y a des paroles qui encouragent, qui donnent du courage. Des insultes. Pardon? Des paroles d'amour. Des paroles d'amour. Peut-être des félicitations s'ils sont à propos. Des fois, on donne, ben, j'ai déjà entendu des parents donner de drôles de surnoms à leurs enfants. Remplacez donc ça, si c'est votre cas, par des petits mots affectueux. J'étais à l'épicerie, puis une femme qui dit, « Bon, je vais voir mes trois petits monstres. Oh. » Ça fait drôle. Mais peut-être qu'il y a des parents, mais, écoutez, chacun sa façon de faire. Pour moi, j'ai de la difficulté à voir le mot « petit monstre » comme étant affectueux. Mais on a chacun notre façon de faire dans les familles. Je ne suis pas en train de dire de flatter. Ce n'est pas de la flatterie. Faites attention. Des mots gentils. Au lieu de cri, ben, la douceur. Fermeté, oui, mais douceur. Confidence trahie. Confidence trahie. Confidentialité. Discrétion. Ah, des fois, on entend des affaires, c'est croustillant. Là. Ça nous démange de raconter à quelqu'un d'autre. Taisez-vous. Soyez respectueuse, soyez discrète. Au lieu du mensonge, vérité ou silence. Le silence peut être une façon de ne pas dire de mensonge. Le rappel des torts passés. Le pardon. La volonté de les taire. La volonté de les taire. Moi, 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 moi. Oui, ça peut être Dieu, ça peut être toi. Avez-vous déjà eu des conversations où l'autre parlait juste de lui? Peut-être que c'est moi qui parle juste de moi. Et si je m'intéressais à toi? Toi, nous, Jésus. Ne soyez pas le centre de vos conversations. Ça arrive souvent, on fait ça tout seul. Non, j'ai juste parlé de moi, je ne me suis même pas informée comment est-ce que ça allait. Et ça arrive très, très souvent. Ne soyez pas coupable de ça. Je le fais, on le fait tous. L'idée, c'est de s'améliorer. Des plaisanteries excessives. Il y en a. Tout est sujet, tout est prétexte à blague. C'est difficile de jaser sérieusement avec ces gens-là. On peut remplacer ça par quoi? La retenue. La retenue. Un peu de sérieux, un accueil. Apprendre à doser son humour. Le sarcasme. Le sarcasme. Apprendre. Par quoi on peut remplacer le sarcasme? Pardon? La bienveillance. Le sarcasme, c'est quand on va teinter d'humour. Un humour noir qui rend mal à l'aise. Alors dites les choses telles qu'elles sont, sans les teinter d'humour. Et savez-vous que les enfants ont beaucoup de difficultés quand on fait de l'ironie? Parce qu'ils ne comprennent pas qu'on dit le contraire de ce qu'on veut. Si je dis, ouais, c'est beau ça, ben, il entend, oui, c'est beau ça. Mais il faut tourner ça à l'envers. Ça veut dire, ouais, c'est pas beau, puis j'aime pas ça. Il faut que l'enfant le décode. N'employez jamais d'ironie avec vos enfants. Ils vont comprendre tout le contraire de ce que vous dites. Puis là, vous vous fâchez contre eux autres, parce qu'ils n'ont pas compris. L'ironie est... ouais, inutile. En revanche, des fois, je vais taire mes bonnes paroles. Il y a plein de bonnes choses qu'il faudrait que je dise, et je les tais. Je dois les dire. Des fois, je ne dis pas à mes enfants les bons mots qu'ils ont besoin d'entendre, les encouragements, les félicitations. Mon mari a besoin d'entendre mes encouragements, mes félicitations, mes remerciements. Des fois, je suis passive, très active pour les paroles de mort, très passive pour les paroles de vie. Comment pouvez-vous aider vos proches? À prononcer pour vos proches des paroles de vie. Une chose dans ma famille, puis je suis contente, ma plus jeune a 14 ans, puis ça devient, c'est même un running gag. Nous, il n'y avait pas de con dans la famille Legendre. On n'a jamais toléré que les enfants s'insultent entre eux. Ils l'ont fait quand on n'était pas là. Mais à chaque fois qu'on entendait un propos de ce genre-là, regarde, il n'y a pas de loser dans la famille Legendre. Là, ben, il y a toutes sortes de blagues qu'il n'y a pas de dans la famille Legendre qui peut être. Mais ne tolérez pas que vos enfants s'insultent entre eux. Et de la même façon, quand vous entendez votre ami dire « Ah, que je suis donc niaiseuse. » Non, non, t'es pas niaiseuse. Dis pas ça, c'est pas vrai. Aidez l'autre aussi à s'entendre parler. Des fois, on se dénigre soi-même. On dénigre qui nous sommes. Puis on a besoin, des fois, de dire « Écoute, si tu m'entends dire quelque chose comme ça de moi-même, dis-le-moi, je ne m'en rends pas compte. » Puis soyez sensible à l'autre. Attirez l'attention de vos enfants sur leurs propres paroles, de vos amis, de votre conjoint. Vous pouvez les reprendre avec douceur et bienveillance. Attaquez le problème aussi à sa racine. Le problème, il est dans le cœur. Quand les enfants étaient petits, je criais beaucoup après les enfants. N'est-ce pas? J'ai une amie qui en est témoin. Et un jour, je me suis dit, non, ça n'a pas d'allure. Il faut que je pense à d'autres choses. Et j'ai décidé de me punir moi-même pour mes paroles dures. Est-ce que tu m'as fait signe, Lise? C'est beau? Okay. Et qui m'a fait. Donc, je me suis dit, je vais me punir moi-même pour mes cris. Et à l'époque, j'ai beaucoup, beaucoup changé depuis parce que je n'en prends pratiquement plus jamais. Je me privais de mon unique Pepsi de la journée. OK? C'était très spirituel, mon affaire. Je me suis dit, OK, si aujourd'hui je crie après les enfants, j'en aurais pas. Imaginez, là, vous vous privez de votre café le matin. Moi, je prends pas de café. OK, on se comprend? J'aurais dû dire café. OK, alors, si je crie aujourd'hui, j'ai pas de café. Un matin, j'étais couchée. Je m'étais pas levée encore, mais mes enfants étaient debout. Et j'étais sous les couvertures et j'ai crié après eux autres dans la cuisine. Puis je me suis dit, je suis faite! Je ne l'aurai pas! Mais là, je me suis dit, et maintenant, qu'est-ce qui m'empêche de crier toute la journée? Non, non! Je n'ai pas fait ça! Et ça, ça a été pour moi. Ça a été pour moi une prise de conscience. J'ai dit, je ne suis même pas debout, puis je suis déjà pénalisée. Ça ne marche pas! Mon système ne marche pas! J'ai voulu réformer ma conduite. J'ai voulu réformer ma conduite à coup de Pepsi. OK. Fait que là, savez-vous ce que j'ai fait? Je me suis dit, je choisis pendant 2 semaines de ne pas en prendre. Oh! Je choisis, puis Seigneur, montre-moi quelque chose. Et pendant 2 semaines, j'en ai pas pris. Et Dieu m'a montré des choses. Et je peux affirmer que je ne crie plus après les enfants. N'est-ce pas? C'est vrai. Voilà, l'ami a parlé. Mais écoutez, c'est sérieux. J'ai jamais crié après mon mari parce qu'il ne l'a jamais toléré. Ben, non, 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 non. Ah, heureusement que ce n'est pas enregistré. Pour mon mari, lever le ton, c'était crier. OK? Lever le ton. Fait que j'ai jamais levé le ton contre mon mari. Ben, les enfants, ils sont tout petits, ils sont tout fragiles. Et ça devient des cibles faciles de nos frustrations. Mais tout se passe ici. Pour pouvoir prononcer la vie, je dois remplir mon cœur de paroles de vie. Parce que c'est de l'abondance du cœur que ma bouche va parler. Vos enfants doivent remplir leur cœur de paroles de vie. Votre mari, vos proches. Là, je finis avec ça. Ne partez pas en croisade pour changer votre mari, vos collègues, votre patron ou vos enfants devenus adultes. Commencez par donner le bon exemple. Priez pour eux. Prononcez de bonnes paroles à leur endroit. La seule personne que vous pouvez changer, voilà, pour les autres, vous devez prier et avoir, par la grâce de Dieu, une influence constructive sur eux. Tu viens?
Je suis contente de dire, Chantal, c'est enregistré. Parce que ça fait deux fois que je l'entends dire ça, puis là, je peux lui dire, c'est enregistré depuis le début. Avant de partir, Billy a mis l'enregistreur. On peut couper des bouts, mais tu comprends qu'on ne peut pas couper dans le milieu de la conférence. Moi, on peut couper mes niaiseries, mais pas toi, c'est la conférence. Ça me fait réfléchir parce qu'on parlait de l'abondance du cœur, que c'est de l'abondance du cœur. Tu vois, ils ont bien appris quand même. Et puis, ça me fait penser à... Je me demandais si j'étais pour le compter, mais je vais vous le compter. C'est pour ça que j'ai demandé à Chantal de partir plus tôt pour que moi, je dise ce que j'ai à dire. Je veux vous parler de Bill. Bill, c'est un homme qui vraiment qui a parlé très fort. Bill, c'était un gars qui était étudiant à l'université. Et puis, il avait les cheveux en broussaille, il avait un T-shirt qui avait des trous dedans, puis il n'y avait pas de souliers. On s'entend que ce n'était pas au Québec, là. Il a fait ses 4 ans d'université arrangés comme ça. OK? Et puis, à un moment donné, pendant son université, il est devenu chrétien. Et juste de l'autre côté de la rue de l'université, il y avait une église. Et puis, les responsables se réunissaient souvent pour se demander comment on pourrait faire pour attirer les gens qui sont à l'université. Mais ils ne trouvaient pas de solution. Alors, Bill est devenu chrétien, lui se demandait « Où est-ce que je vais aller maintenant? » Alors, il se rend de l'autre côté de la rue, à l'église. Et puis là, la réunion était commencée. Alors, il dit, je vais rentrer, puis je vais chercher une place en arrière pour déranger le moins possible. Alors, Bill s'avance, pas de place. Il descend l'allée. Et là, vous comprenez le malaise qui commence à s'installer chez les gens de voir entrer ce gars-là, les cheveux débroussaillés, T-shirt plein de trous, pas de souliers. Et puis là, mon Bill, il cherchait une place, puis il cherchait. Il n'en trouve pas. Et il a fallu qu'il se rende jusqu'en avant. Et là, vous comprenez que le pasteur ne peut pas commencer son message, là. Parce que là, tous les regards sont tournés vers Bill. Alors, il attend. Et puis Bill arrive en avant. Puis il s'assit à terre. Oh! Oh! Que le malaise était profond. Eh bien là, il y a un diacre âgé d'à peu près 80 ans. Complet, 3 pièces, élégant, cheveux gris. Bon, peut-être blanc, là, rendu à cet âge-là, là. OK, mais on s'entend quelqu'un là, de bien. Quelqu'un qui était réputé. Il marchait avec une canne. Alors, il s'avance d'en arrière et il s'en vient. Et là, il y a un silence, presque comme celui-là. Là. Il y a un silence vraiment très lourd. Puis dans la tête des gens, ça se dit, il va se faire placer. Yes! Alors, notre diacre s'approche et tout ce qu'on entend, c'est le bruit de la canne sur le sol. Bon, peut-être pas si fort que ça, là. Bon. Il s'approche. Jusqu'en avant. Et là, il arrive en avant, à côté de Bill, il laisse tomber sa canne et il s'assoit. Là, à un moment donné, le pasteur, il revient de ses émotions, puis il dit, ce que je vais prêcher aujourd'hui, vous vous en souviendrez jamais. Ce que vous venez de voir, vous allez toujours vous en souvenir. Et vous savez pourquoi je vous amène ça? Je le sais qu'au début, on a dit les actes, on parle toujours des actes, c'est vrai, mais je vous apporte ça pour vous dire que cet homme-là, s'il a fait ça, c'est parce qu'il avait compris quelque chose dans la parole. Et pourtant, tous les gens dans l'assemblée, dans cette assemblée-là, ils lisaient la même parole. Je veux seulement vous laisser avec ça. Mais sur ce, bon, on va y aller avec le dîner, c'est le temps du dîner. Je sais que je coupe raide, là, c'est parce que je sais qu'on est pressé par le temps. À cause du nombre de personnes qui se sont inscrites, on doit faire 2 tablés. Alors, voilà comment on va fonctionner. Plutôt que d'aller manger à midi, comme c'était supposé, ça va être à midi moins quart. Alors, comment on va faire ça? C'est qu'on va demander aux femmes de l'Assemblée du Cap d'aller à la 2e tablée. OK? On est à peu près 40. Alors, on va laisser toutes les autres, et puis les gens qui font partie là, des comités, là, comme à la librairie en arrière, d'aller à la 1e tablée. Quand ça va être fini en bas, on calcule que ça va être quand même assez, ça va quand même aller assez bien. On va vous demander, les femmes du Cap, de descendre en bas. Au menu, ce qu'on a cette année, c'est un ragoût d'automne qui est fait maison, mais également des tartes au sucre maison. Et je vous dis, là, moi, je les ai vues. OK? Puis je vais vous dire que là, j'aimerais être la 1e tablée. Je vous demande seulement de nous en laisser un peu. C'est tout ce que je vous demande, OK? Aussi, oui, je veux prendre la peine de remercier. Tout à l'heure, on avait dit on n'a pas de projecteur. Puis, il y a une femme que je ne connais pas, mais qui est de l'Assemblée de la TUC. Madame, je vous remercie beaucoup parce qu'elle s'est offerte. Elle dit, ben moi, on m'a déjà montré comment ça fonctionnait. Alors, je vous remercie beaucoup, ça nous a dépanné. Je voudrais remercier aussi Allison, qui n'était pas mandatée pour jouer du piano, mais à qui on a demandé à la dernière minute et qui a dit oui. Alors, je te remercie beaucoup aussi. Si vous voulez vous impliquer comme ça toutes les années, venez nous voir, ça va nous faire plaisir. Alors, juste avant de passer au repas, je demanderai peut-être à notre amie Jeanne, si tu veux t'approcher pour rendre grâce avant le repas, je vous laisse aller après ça. On revient tout le monde pour 1 heure. D'accord? Tout est beau comme ça?
Ça me fait plaisir de vous voir. Alors, on ferme les yeux, on va s'incliner, puis on va rendre grâce. Mais Seigneur grand Dieu, bon papa, on voudrait réellement te remercier du plus profond de notre être pour cette nourriture que nous allons prendre tantôt. Et je voudrais te remercier grandement pour toutes ces sœurs qui ont travaillé très fort pour pouvoir nous apporter cette très bonne nourriture préparée par elles-mêmes. Alors, je te demande de les bénir grandement. Et je voudrais en profiter aussi, Seigneur, te remercier aussi pour toutes celles qui ont préparé pour cette très belle journée qui est mise devant nous. On veut vraiment te louer, t'honorer pour tous ces bienfaits, ces bontés, ces grâces que tu nous accordes. Et merci aussi pour Chantal qui nous enseigne ta parole, combien il est important, Seigneur, de nos mots. Alors, Père éternel, on voudrait, par ton esprit, graver ça le plus profond de notre être sur notre cœur, pour qu'enfin que ça puisse rester que ça puisse rester pour que ça tombe dans l'oubli, pour qu'enfin qu'on nous puissions avoir des bonnes paroles dites à propos, comme nous dit les proverbes. Car on sait, Seigneur, c'est important de faire attention à nos paroles. Alors, on veut te remercier encore une fois pour toutes ces bontés, ces bienfaits, et sois-en glorifié, car tu en es tellement digne. Amen.